Bonjour à toutes et à tous. Alors je sais que dans cette salle il fait un petit peu froid, mais j'espère que l'écoute de la parole de Dieu vous réchauffera. En tout cas, j'espère que vous avez pu aussi trouver de la chaleur dans les chants que nous avons entonnés à notre Dieu. Vous avez peut-être déjà entendu des témoignages de conversion spectaculaires. Des hommes et des femmes avaient une vie peu recommandable, et en rencontrant Jésus-Christ, ils décident de le suivre. Je citerai l'exemple d'un chef de gang qui a donné sa vie à Jésus, comme Nicky Cruz, que vous connaissez peut-être. Et peut-être que vous vous êtes déjà dit qu'à côté de ces témoignages, le vôtre n'a rien de particulier. Celles et ceux qui ont grandi dans une famille chrétienne ou dans l'Église ont un peu ce complexe d'infériorité, voire ils envient des témoignages comme celui-là, des témoignages qu'ils trouvent puissants. Mon témoignage, se disent-ils, est assez banal. Je n'ai pas vécu un changement brutal comme d'autres. Lorsque je me suis converti, rien n'a vraiment beaucoup changé dans ma vie. Et à côté des témoignages de conversion spectaculaire, certains se sentent peut-être bien petits. Et pourtant, ce que Dieu a fait en eux est loin d'être petit. Le texte que nous abordons cet après-midi montre au contraire la grandeur de ce que Dieu accomplit pour changer un être humain. Croyez-moi, si nous n'étions pas chrétiens auparavant et que nous le sommes devenus, ce n'est pas un petit changement, quel que soit notre parcours. Depuis quelques semaines, nous étudions des textes écrits par l'un des grands prophètes, grands pas forcément par leur ministère, même si sans doute qu'ils ont eu un grand ministère, mais surtout grands par la longueur de leurs écrits dans la Bible. Nous avons commencé par Ésaïe. Ésaïe qui annonce de la part de Dieu, dans les années 700 avant Jésus-Christ, une bonne nouvelle à son peuple. Dieu va venir en personne. Plus tard, dans les années 600 à 580, Jérémie annonce que Dieu conclura une nouvelle alliance, que Dieu gravera sa loi dans le cœur des membres de son peuple et que tous le connaîtront. Aujourd'hui, nous parlerons d'Ézéchiel. Ézéchiel qui a vécu à peu près à la même période que Jérémie. Une période marquée par plusieurs sièges de la ville de Jérusalem. D'abord, en 605, le roi de Babylone déporte une partie des Judéens en Babylonie. Je vous montre simplement une carte. Vous voyez le tracé en jaune qui indique l'exil, la déportation de ces Judéens jusqu'en Babylonie. Donc en 605, le roi de Babylone déporte une partie des Judéens. Puis en 597, le roi de Babylone déporte encore des Judéens. Et Ézéchiel fait partie du convoi. C'est donc là-bas, en Babylonie, que le prophète va parler de la part de Dieu à ses contemporains, qui sont exilés, qui sont loin de chez eux, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et c'est là-bas qu'ils apprennent, 10 ans plus tard, que la ville de Jérusalem et le temple ont été détruits par les Babyloniens. Si Jérusalem, le cœur du royaume d'Israël, n'est plus, quel est donc l'avenir du peuple de Dieu? Quel est donc l'avenir pour ces exilés qui sont loin de leur terre? Bien sûr, tout cela leur est arrivé parce que le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu, parce qu'il a adoré des idoles, parce qu'il a commis toutes sortes de péchés. Mais Dieu apporte à ses exilés des paroles de réconfort, des paroles d'encouragement. Dieu leur apporte une espérance par les promesses qu'il leur donne. Dieu leur promet qu'il les ramènera chez eux. Et sur la carte, vous le voyez avec le tracé noir, Dieu leur promet qu'il les ramènera chez eux. Dieu leur promet aussi qu'il transformera le cœur des membres de son peuple pour que ce peuple ne soit plus un peuple rebelle. Et cette promesse, en l'occurrence, se réalisera beaucoup plus tard, après la venue de Jésus. C'est pourquoi pour nous qui vivons après la venue de Jésus, nous sommes concernés par ces paroles que nous avons lues. Parce que ces paroles décrivent ce que Dieu a fait en nous qui croyons. Oui, c'est bien Dieu par son Esprit qui fait de nous un peuple obéissant. C'est bien Dieu par son Esprit qui fait de nous un peuple obéissant. Et nous voyons d'abord que Dieu promet une œuvre efficace. Le moins que l'on puisse dire, c'est que quand Dieu agit, c'est toujours efficace. Quand Dieu promet d'agir, c'est toujours efficace. Verset 25, « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. » Qu'est-ce que cette image d'eau pure qui purifie ? À quoi cela fait-il référence ? Pour l'Israélite de l'époque, cela peut lui rappeler l'eau avec laquelle les prêtres se lavaient les mains et les pieds avant d'effectuer leur service devant Dieu. C'est ce que nous lisons dans Exode chapitre 30. Cela peut aussi rappeler à l'Israélite de l'époque l'eau de purification qui servait à purifier une personne qui avait touché un cadavre. C'est une loi un peu particulière que nous lisons dans Nombre 19, et j'aimerais simplement vous proposer d'écouter un extrait de cette loi. Un homme en état de pureté prendra une branche d'hysope et la trempera dans l'eau, en aspergera la tente où quelqu'un est mort, ainsi que tous les ustensiles et toutes les personnes qui s'y trouvaient. Il fera de même pour celui qui a touché des ossements, le cadavre d'un homme tué par un autre ou mort naturellement, ou une tombe. L'homme pur aspergera celui qui est souillé le troisième et le septième jour. Le septième jour, il le purifiera entièrement de sa faute. Vous voyez peut-être un petit peu le parallèle avec notre verset 25. Et Ézéchiel, je ne l'ai pas précisé, mais Ézéchiel qui est issu d'une famille de prêtres est forcément sensible à ces questions-là, à ces questions de purification, de pureté. Et au verset 25 de notre texte, c'est Dieu qui accomplira lui-même cet acte de purification. Et le peuple, qui était marqué par son péché, comme nous l'avons dit, et en particulier par l'idolâtrie, avait bien besoin d'être purifié, avait bien besoin d'être transformé. Et Dieu promet d'intervenir personnellement. Et lorsqu'il intervient personnellement, son œuvre est efficace. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Voilà le résultat. Alors, il s'agit bien d'une image. J'espère que vous l'entendez bien, parce que Dieu ne va pas verser vraiment de l'eau. C'est une image qui annonce que Dieu va purifier son peuple. Son peuple qui, jusque-là, est infidèle. Et un autre verset, toujours dans ce passage, montre aussi que l'œuvre que Dieu promet d'accomplir sera efficace. Le verset 27. « C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Comment le peuple pourra-t-il être obéissant alors que jusque-là, il a lamentablement échoué ? Dieu promet de donner son esprit, pour que chaque membre de son peuple puisse être capable de lui obéir, c'est-à-dire de suivre ses lois, de faire ce que Dieu commande, de faire ce qui lui plaît. Sans l'esprit en eux, les membres du peuple de Dieu seraient incapables de suivre Dieu dans ses voies. Nous connaissons bien la tendance naturelle de l'être humain à suivre ses propres voies, à être son propre Dieu. Et l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome à ce sujet, dans Romains chapitre 8, les versets 7 et 8, En effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. Voilà le constat. Sans l'intervention de Dieu, l'être humain est dans l'incapacité d'aimer Dieu et de lui obéir. Ce qui n'est pas le cas des chrétiens. Écoutez le verset 9. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Sans l'Esprit de Dieu en lui, l'être humain ne se mettra pas à suivre Dieu. Mais avec l'Esprit de Dieu en lui, le chrétien a envie d'obéir à Dieu. Une envie, un désir qu'il n'avait pas avant sa conversion. C'est bien la preuve que Dieu est intervenu dans sa vie. D'où lui vient un tel désir de vouloir obéir à Dieu, si ce n'est parce que Dieu est intervenu dans sa vie? L'œuvre de Dieu est donc efficace. En mettant son esprit en nous, il nous rend capables de lui obéir. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais nous vanter de notre obéissance. Parce que c'est lui qui nous rend capables de lui obéir. Nous ne pouvons jamais nous vanter de notre obéissance. C'est donc la présence de l'Esprit de Dieu qui fait la différence, qui fait d'un être humain un être nouveau. C'est ce que Jésus a voulu expliquer à un chef religieux du nom de Nicodème. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, nous lisons ce dialogue entre Jésus et Nicodème. Jésus lui répondit : « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit : « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit pour voir et pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus reprend le même message qu'Ézéchiel avec l'eau et l'esprit. Quand Dieu dit par Ézéchiel : « je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés », à quoi fait-il référence si ce n'est à l'esprit qui opère cette purification, cette transformation ? La nouvelle naissance ou la régénération, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Personne ne peut naître de nouveau tout seul. Autrement dit, personne ne peut devenir chrétien tout seul sans l'intervention de Dieu en lui ou en elle. Mais dès lors que Dieu agit en nous, son œuvre est efficace. Non seulement la personne transformée par Dieu a l'espérance d'entrer dans le royaume de Dieu, mais elle devient aussi quelqu'un qui applique la volonté de Dieu tout au long de sa vie. Et cette efficacité dans l'œuvre de Dieu, nous la voyons dans notre vie, quand nous choisissons de lui obéir plutôt que de nous écouter. Par exemple, en continuant d'aimer notre chef ou notre collègue qui n'a rien d'aimable. En continuant d'honorer nos parents, même lorsque nous recevons de leur part plus de critiques que d'encouragement. En évitant de nous asseoir sur le banc des moqueurs ou des médisants, quitte à moins bien nous intégrer dans l'équipe. Chaque fois que nous faisons le choix d'obéir à Dieu, nous expérimentons la vérité de cette parole : « je vous ferai suivre mes prescriptions, gardez et respectez mes règles. » Chaque fois que nous faisons le choix d'obéir à Dieu, nous faisons l'expérience de cette vérité que Dieu déclare : « je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Voilà ce que Dieu promet à ce moment-là aux exilés qui sont avec Ézéchiel. Dieu promet une œuvre efficace. Et en même temps, il faut le dire, cette œuvre sera radicale. Une œuvre radicale. Parmi les grandes avancées de la chirurgie moderne, je songe à la greffe du cœur. Alors, je n'ai pas une image à vous montrer de ce type-là, mais j'ai trouvé ça. Je songe à la greffe du cœur. C'est sûrement une opération impressionnante, mais qui permet réellement, aujourd'hui, à une personne greffée de vivre plusieurs années, lorsque cela fonctionne, bien sûr. La greffe du cœur. Et je me demande quel sentiment peut avoir une personne qui reçoit ainsi un cœur étranger, le cœur d'un autre. Quel sentiment pourrait avoir cette personne qui reçoit le cœur d'un autre ? Dans notre texte, Dieu promet de donner un cœur nouveau. Alors, il ne s'agit pas ici de l'organe, mais de l'être intérieur. Et pour reprendre les propos du professeur Sylvain Romerowski, qui fait une énumération intéressante à propos du cœur, voici ce qu'il dit concernant le cœur. Le cœur, c'est tout ce qui fait les motivations, les inclinations, les intentions, les désirs, les intérêts, les buts, ce qui oriente et détermine toute la personne, ainsi que ses sentiments, ses pensées, ses paroles et ses actes. C'est tout ça à la fois. Le cœur, c'est le centre de notre personne. C'est tout ce qui motive notre vie et nos actes. C'est donc ainsi que nous devons comprendre le verset le cœur au verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Autrement dit, Dieu changera tout ce qui est décrit ici. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Dieu promet de donner à chaque membre de son peuple un cœur nouveau, un esprit nouveau. De quelle manière ? L'Éternel déclare qu'il remplacera leur cœur de pierre par un cœur de chair. Un cœur de pierre, c'est un cœur dur, bien sûr, vous l'entendez bien. Un cœur qui est imperméable à l'eau. L'eau ne peut pas s'infiltrer à l'intérieur. L'eau qui est l'image de l'esprit. Donc un cœur qui est imperméable à l'action de l'esprit. Et à la place de ce cœur dur qui ne se laisse pas façonner par Dieu, eh bien, le Seigneur promet de donner un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur malléable, un cœur vivant, un cœur qui peut recevoir la vie. Les commentateurs s'accordent pour dire que le cœur de chair est un cœur réceptif, un cœur qui est ouvert à la parole de Dieu. Voilà le cœur nouveau que Dieu promet de donner à son peuple. Et seul Dieu peut accomplir une telle opération, ce changement d'un cœur de pierre en cœur de chair. Aucun hôpital au monde ne peut vous proposer cela. Seul Dieu peut accomplir une telle opération. Et la conséquence de ce nouveau cœur n'est pas le prolongement d'une dizaine d'années de vie, mais une vie éternelle dans la présence de Dieu. La conséquence de ce nouveau cœur n'est pas le prolongement d'une dizaine d'années de vie, mais une vie éternelle dans la présence de Dieu. Ce verset est bien sûr à mettre en lien avec les deux autres, les versets 25 et 27. Ce verset décrit la transformation que l'Esprit de Dieu opère dans le cœur des membres du peuple de Dieu, de telle sorte que ces derniers vivent selon ses lois et obéissent à ses commandements. nous avons ici la description d'un changement radical. C'est avec un cœur nouveau que les croyants peuvent obéir à Dieu et vivre une vie conforme aux exigences de Dieu. D'ailleurs, pour reparler encore de l'apôtre Paul, eh bien, il parle aussi de cette nouveauté dans ses lettres. Je citerai quelques exemples. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Galates chapitre 6, verset 15, « En effet, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. » Et encore dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ces versets sont clairs. Nous devenons une nouvelle créature lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, l'innocent qui s'est chargé de nos fautes et qui est mort à notre place une fois pour toutes. C'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes, pour que nous soyons déclarés non coupables. Ainsi, une nouvelle vie est possible. Tout à l'heure, nous parlions de nouvelle naissance et ici, il est question de nouvelle création. C'est bien le projet de Dieu qu'en Christ, il y ait une nouvelle humanité. Une nouvelle humanité radicalement différente de l'humanité qui vit sans Dieu. En Christ, il y a une nouvelle humanité. Bien entendu, les chrétiens sont encore imparfaits. Mais quelque chose de radical s'est produit au début de leur vie chrétienne, parce qu'ils ont reçu un cœur nouveau. Dieu nous a donné un cœur nouveau, un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Et depuis ce moment, nous avançons avec lui et nous cherchons, avec son aide, à faire sa volonté dans notre vie. Et Dieu continue de nous transformer parce que ce qu'il vise, c'est notre perfection. Et donc Dieu continue de nous transformer. Et cette promesse du verset 26 nous donne un espoir quant à celles et ceux que nous connaissons et qui sont loin du Seigneur. Dans un film que je mentionne souvent, Jésus l'enquête, qui raconte une partie de la vie de Lee Strobel, un journaliste athée qui a voulu démonter la foi chrétienne. Et bien dans ce film, nous avons une scène où son épouse chrétienne, Leslie, où son épouse se met à prier à partir d'Ézéchiel 36, verset 26. Elle prie que Dieu donne à son mari un cœur nouveau. Elle prie que Dieu donne à son mari athée qui cherche à démonter la foi chrétienne un cœur nouveau. Et dans sa grâce, Dieu répond favorablement. Effectivement, Lee Strobel s'est tourné vers Christ. Dieu a fait de lui une nouvelle créature. Si nous comprenons par ce verset 26 que seul Dieu peut donner un cœur nouveau, alors prions le Seigneur qu'il intervienne dans la vie de nos proches, qu'il intervienne dans la vie de nos amis, de nos voisins, de nos collègues. Non seulement c'est ce que Dieu a fait pour les chrétiens qui sont dans cette salle, Dieu a donné un cœur nouveau. Mais il continue de le faire de nos jours et il peut le faire pour les personnes de notre entourage qui ne connaissent pas le Seigneur. Demandes-tu à Dieu qu'il donne un cœur nouveau à ces personnes qui ont pour l'instant un cœur de pierre? Est-ce que tu fais cette prière-là? Demandes-tu à Dieu de donner un cœur nouveau à ceux qui ont pour l'instant un cœur de pierre? Quand tu penses à telle personne qui est tellement endurcie et tellement loin du Seigneur, est-ce que tu crois que Dieu peut la transformer? Qu'elle peut vraiment changer son cœur de pierre en cœur de chair? Est-ce que tu le crois? Pour les exilés qui savaient que la destruction de Jérusalem était due à l'infidélité de leur peuple, une telle promesse ne nécessitait rien de moins que la foi en Dieu. Est-ce que Dieu peut vraiment changer le cœur des membres de son peuple? Eh bien oui, il le peut. Oui, il l'a promis. Oui, il a réalisé sa promesse. Et Dieu continue de changer des cœurs. Et je suis sûr que pour chacun d'entre nous, nous avons au moins une personne dans notre entourage à qui nous pensons, qui a un cœur de pierre et pour qui on aimerait que Dieu lui donne un cœur de chair. Mais il s'agit de demander à Dieu cela, parce que c'est lui qui le fait. Et il le fait dans sa grâce, s'il le veut. Quand une personne passe de la mort à la vie, quand une personne passe des ténèbres à la lumière, d'un cœur de pierre à un cœur de chair, c'est toujours le résultat de l'intervention de Dieu. C'est pourquoi nous prions pour nos proches, car seul Dieu peut les changer. Nous n'avons pas d'autre recours que de nous confier en Dieu pour un tel miracle, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour nos parents ou pour nos conjoints. Seul Dieu peut leur donner un cœur nouveau. Nous avons vu jusque-là que Dieu promet aux exilés d'accomplir une œuvre efficace, une œuvre radicale. Nous pourrions alors nous demander pourquoi Dieu fait tout cela. Après tout, le peuple d'Israël a mérité son châtiment. Pourquoi Dieu fait-il tout cela? Pourquoi Dieu promet-il de le restaurer d'une manière aussi efficace? Eh bien, Dieu promet d'accomplir cette œuvre pour sa gloire. Et pour cela, je vous propose de remonter au verset précédent pour saisir l'ensemble du contexte. Pourquoi Dieu promet toutes ces choses à un peuple infidèle qui ne le mérite pas? Dieu rappelle, à partir du verset 17, combien le peuple a mal agi. Et je relis le passage avec vous, à partir du verset 17. « Fils de l'homme, les membres de la communauté d'Israël habitaient sur leur terre, mais ils l'ont rendu impur par leur conduite et leurs agissements. Leur conduite a été devant moi pareille à l'impureté d'une femme pendant ses règles. Alors j'ai déversé ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles par lesquelles ils l'avaient rendu impur. Je les ai éparpillés parmi les nations et ils ont été dispersés dans divers pays. Je les ai jugés conformément à leur conduite et à leur agissement. Arrivés chez les nations où ils devaient se rendre, ils ont déshonoré mon saint nom, puisqu'on disait d'eux, « C'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. » Alors j'ai voulu épargner mon saint nom que la communauté d'Israël déshonorait dans les nations où elle s'était rendue. Quel était le problème à ce moment-là? Les Israélites ont bien reçu leur châtiment. Ils ont été jugés par Dieu pour leur mauvaise conduite et pour leur mauvais agissement. Mais aux yeux des autres nations, les Israélites apparaissent comme un peuple que Dieu n'a pas pu protéger. Et je suis à ce titre-là l'interprétation de certains commentateurs. Autrement dit, c'est Dieu qui reçoit ici une mauvaise réputation auprès des autres nations. Les autres nations n'avaient pas compris que l'exil d'Israël était un châtiment de la part de Dieu. Non, ils ont compris plutôt que l'exil d'Israël est la preuve que Dieu est impuissant et ne peut pas les protéger. Et ça, Dieu ne peut pas leur laisser penser cela, parce que ce serait un mensonge concernant Dieu. Dieu ici a mauvaise réputation auprès des autres nations. Et c'est pourquoi, on lit la suite, verset 22, c'est pourquoi annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous. Donc, il interpelle la communauté d'Israël, ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, communauté d'Israël, mais c'est pour mon saint nom, puisque vous l'avez déshonoré dans les nations où vous vous êtes rendus. Je démontrerai la sainteté de mon grand nom qui a été déshonoré parmi les nations, puisque vous l'avez déshonoré au milieu d'elles. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, déclare le Seigneur l'Éternel, quand à travers vous, je manifesterai ma sainteté sous leurs yeux. Je vous arracherai aux nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Dieu dit au moins deux choses dans ces versets. D'abord, Dieu n'intervient pas à cause de son peuple, mais pour son nom, pour son honneur, pour sa gloire. Comme nous venons de le voir, Dieu a pris le soin de rappeler qu'Israël a mal agi envers lui. Et si Dieu promet tout ce qu'il promet, ce n'est pas parce qu'Israël aurait quelque chose de spécial. Aucun être humain pécheur ne peut prétendre mériter ce que Dieu fait pour lui ou ce que Dieu promet de faire pour lui. Et encore moins tout un peuple rebelle. Si Dieu intervient ici et s'il donne toutes ses promesses d'un cœur nouveau, ce n'est pas à cause de son peuple qui est si mauvais, c'est à cause de lui, de sa réputation, de sa gloire. La deuxième chose, c'est que par son intervention, Dieu fera en sorte que les nations reconnaissent qu'il est l'Éternel. Parce que le souci premier de Dieu, c'est son honneur. Si Dieu promet tout ce qu'il promet, c'est pour sa gloire. Et nous voyons que Dieu veut se révéler aussi aux autres nations. Et la première étape de son intervention en faveur de son peuple, c'est cette promesse à laquelle nous sommes habitués à présent, le retour de l'exil. Ça, c'est la première étape. Parce que cela montrera aux autres nations que Dieu a en fait la puissance de ramener son peuple dans son pays. Première étape de son intervention pour montrer qu'il est vraiment puissant, qu'il est vraiment Dieu. Il ramène son peuple dans son pays. Deuxième étape de son intervention, eh bien c'est tout ce que nous avons dit précédemment. La promesse que Dieu transformera son peuple par une eau pure, c'est-à-dire par son esprit, pour en faire un peuple où chaque membre aura un cœur nouveau. Ainsi, ce peuple renouvelé, ce peuple purifié, ce peuple nouveau pourra vraiment rendre témoignage qu'il est le peuple de Dieu, un peuple qui ne déshonore plus Dieu comme l'ont fait les Israélites, un peuple qui lui obéit. Voilà comment Dieu montre sa gloire. Est-ce que nous avons songé que si Dieu a voulu constituer un peuple au cœur nouveau, c'est pour sa gloire ? Si Dieu nous a donné un cœur nouveau, c'est pour sa gloire. Dis-moi, si tu es devenu chrétien, chrétienne, si tu as choisi de suivre Jésus, ce n'est pas pour toi, mais pour sa gloire, n'est-ce pas ? Qu'il est important de rappeler que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour le Seigneur, et pour que son nom soit connu parmi les nations. Autrement, pourrions-nous vraiment dire que nous sommes de nouvelles créatures ? Si nous continuons de vivre pour nous, qu'y a-t-il de nouveau dans cette manière de vivre ? Aujourd'hui encore, le témoignage de l'Église auprès de ce monde est capital, car nous montrons qui est Dieu par notre vie collective. Nous montrons qui est Dieu par notre amour les uns envers les autres. Qu'est-ce que les gens auraient dit s'il y a quelques semaines, nous nous étions mis à nous disputer au stand de la brocante, devant le bâtiment de notre église ? Qu'est-ce que les gens auraient dit si nous avions été de mauvais vendeurs, des vendeurs désagréables ? Retenons que Dieu fait de nous un peuple obéissant pour son honneur, pour sa gloire, pour que le monde reconnaisse qu'il est Dieu. Durant son séjour sur terre, Jésus a eu le souci de la gloire de son Père, de la gloire de Dieu. Il est venu pour que les hommes et les femmes le connaissent, connaissent Dieu. Et de la même manière, la gloire de Dieu doit être notre souci au quotidien, dans nos actes, dans nos paroles, dans nos pensées. Et c'est particulièrement à l'amour que nous avons les uns pour les autres, dans l'Église, que le monde voit que nous sommes disciples de Jésus. C'est pourquoi, avec l'aide de son Esprit, nous devons faire des efforts particuliers pour nous aimer les uns les autres, comme le Seigneur nous a aimés. Parce que cela participe au témoignage que nous rendons. Parce que cela montre qui est Dieu. Et si nous faisons tout cela, eh bien nous le faisons pour sa gloire, pour sa réputation, pour son honneur. Après avoir dit tout cela, dirions-nous encore que notre témoignage de conversion est banal ? En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Il n'y a rien de banal en cela. Et notre texte d'Ézéchiel 36 nous montre des promesses qui ont de quoi redonner de l'espoir aux exilés. Et pour nous qui avons été intégrés au peuple de Dieu, alors que nous ne sommes pas juifs, nous nous rendons compte aussi combien ces promesses sont merveilleuses. Nous nous rendons compte que nous avons été l'objet de sa grâce, que Dieu a bien voulu de nous. Pour son honneur, Dieu fait de nous un peuple obéissant. Un peuple au cœur nouveau. Un peuple en qui Dieu a mis son esprit. Il n'y a vraiment rien de banal en cela. Et la prochaine fois que vous aurez l'occasion de raconter votre témoignage, dites-vous qu'il n'y a rien de banal dans votre témoignage. Que le Seigneur poursuive cette œuvre efficace, radicale, et qui le glorifie au milieu des nations. Et gloire à Dieu pour chaque personne qui reçoit de sa part un cœur nouveau. Amen. Prions ensemble. Notre Père, peut-être que nos mots sont bien faibles lorsqu'il s'agit de décrire la grandeur de tout ce que tu as accompli, de la manière dont tu as sauvé un peuple pour ta gloire. Et c'est vrai, nous nous sentons tellement petits devant la grandeur de ta grâce, de nous rendre compte que tu as bien voulu de nous, alors que rien en nous n'est aimable. Mais merci parce que, en regardant de plus près ces promesses que tu as laissées au peuple d'Israël, nous voyons l'incroyable projet que tu avais de te constituer un peuple qui t'obéisse, un peuple en qui tu places ton esprit, un peuple qui marche à ta suite, fidèlement. Et nous voyons cette réalité dans l'Église, bien que nous soyons imparfaits, mais nous savons qu'un changement radical a eu lieu dans notre vie. Et pour cela, nous n'aurons jamais assez de mots, ni assez d'années pour te remercier. Oui, merci Seigneur de nous avoir accordé ce cœur nouveau, ce cœur qui fait toute la différence. Merci de nous avoir accordé cette vie nouvelle, cette vie que nous continuons de vivre en comptant sur toi, sur l'œuvre de ton esprit en nous. Et nous prions, Seigneur, encore et encore, pour nos proches, pour les personnes de notre entourage, pour toutes ces personnes qui ont un cœur de pierre. Nous te demandons, Seigneur, que dans ta grâce, Seigneur, tu leur accordes un cœur de chair, un cœur nouveau, un cœur qui fait d'eux des personnes nouvelles, des personnes qui s'ajoutent à ton peuple, un peuple qui continue de grandir, qui continue de grandir pour ta gloire. Oui, Seigneur, nous te prions que durant la semaine qui vient, tu nous accordes de vivre pour ta gloire à chaque instant. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen.